happy.
Good morning.
Really happy.
Good morning.
Be with you. Be with you. Be with you.
Happy. Good
morning. Really happy.
Good
morning. Be with you.
Good morning! Bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mars. C'est une belle journée de printemps pendant laquelle le Bitcoin et l'Ethereum sont au plus haut, surtout le Bitcoin d'ailleurs qui frôle les 70 000 dollars. Et mon cher Rem, je voulais savoir avant tout, est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu vas bien?
Bah ouais, ça va. Mais déjà hier, il était à 70 000, non?
Il est là. Oui, bah ça va, c'est bien. Il est stable aux alentours des 70 000.
Ok. Mais
il est pas loin de son ATH, quoi.
Ok, ok. Non, non, bravo.
Donc il est pas. Il était. Tu vois, il y a une semaine, il est descendu à 63 000 à un moment donné.
Attends, John. Alors, est-ce qu'on peut dire que we are back? We are so back. Est-ce qu'on peut dire que we are so back?
J'aime quand tu dis ça, je ne sais pas d'où tu le sors, mais en tout cas, ça, c'est une vraie question et c'est un peu le point de départ. Hein. On le dit depuis quelques mois, c'est ce qu'on entend sur les réseaux, we are back, ça veut dire le bull run est de retour, on est de retour, on a souffert, parce que c'est ça un peu la narrative quand même, c'est on a vécu un bear market très difficile, on a galéré, on a attendu, on a cru et on a eu raison de croire parce que le Messie est de retour, le bull run est là. On a enfin le moment où tous nos efforts vont enfin payer. Et c'est ce qui semble être le cas parce qu'en effet, grâce à une concordance de différentes choses, l'ETF, le halving qui arrive, en tout cas, voilà, il y a un renforcement incroyable qui fait que techniquement, les cryptos et notamment le Bitcoin n'ont jamais été aussi haut. Mm-hmm. Nous, NFT Morning, on est, on va dire, quand même un peu des NFT maximalistes.
Ah bah carrément.
On n'a pas été biberonné au Bitcoin.
Bah là, on est même coin maximaliste un peu en ce moment, mais.
mais justement. Tu vois, nous, on est quand même, on est biberonné au NFT, on est biberonné au Art Blocks, on est biberonné au PFP, on est biberonné au One, on est biberonné à l'art, on est biberonné à tous ces assets qui, en 2021-22, pour certains, étaient extrêmement brillants. Et pendant le bear market, beaucoup d'entre nous ont accumulé justement en se disant, tiens, je vais acheter des Squiggle, je vais acheter des Art Blocks. Je vais acheter de l'art, peut-être même de l'art ou des artistes qui percent, ou je vais acheter simplement certaines collections PFP, peut-être un Ape, parce qu'ils ne sont pas très chers, ou peut-être justement...
Ça, c'était un peu cher quand même.
Bah, ils étaient beaucoup moins chers pendant le bear market.
Oui,
et
d'accord.
Et en fait, ouais. Donc tu vois, le Ape, tu pouvais avoir un Ape déjà pour 25 ETH, quoi, un truc comme ça, tu vois, alors que le ETH était beaucoup moins fort. Mm-hmm. Ce qui se passe aujourd'hui, et je vais regarder ça sur mon ordinateur plutôt que sur mon mobile pour te dire un peu les prix en direct, c'est que si je vais sur les collections Ethereum, aujourd'hui, le Mutant, par exemple, est à 2 Ethers. Le Bored Ape est à 12,6 Ethers. Azuki, 4,6 Ethers. Et ça, je te parle des collections PFP.
Des blue chips. John, t'es plus là. Mais il y a Frédéric et Arkay avec nous.
Est-ce que tu m'entends à nouveau?
Oui, je t'entends.
Ok, parce que c'est en fait quand mon téléphone se met en veille aussi, et c'est le cas.
Ah, d'accord.
Eh bien, tu vois, la room disparaît. Donc, ça, je te parle uniquement. Le Chromie Squiggle, qui était à 13 ETH pendant le bear market, ce qui était genre censé être un bon coup, est à 5,3 ETH. Le UT est à 0,34. Et voilà, j'en passe. Le MIBIT est à 0,8. Donc, en fait, on est sur des prix qui sont tout simplement 10 fois moins importants que ce qu'ils ont pu être à un moment donné. Ils sont même pour beaucoup moins importants que pendant le bear market. Ce qui signifie, en fait, qu'il y a un vrai, un vrai questionnement, une vraie remise en cause. C'est-à-dire que cette stratégie qui était d'accumuler, de se dire, tiens, je suis en train de saisir des petites pépites. Et même, je te parle ça même de l'art, hein, même si tu regardes les X copies, les éditions, les grifters, il n'y a pas eu de vraies évaluations de ces collections blue chip, de ces collections clés, pendant ce début de bull market. Donc, d'où cette question, Rem.
Ouais.
D'où cette question, qui est un peu le sujet de notre room aujourd'hui, qu'on va demander un peu innocemment, c'est when NFT, bull run, can dev do something? Est-ce qu'on peut nous aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend?
Mais...
On a compris les mêmes coins, il se passe quelque chose. On a compris le Bitcoin, c'est la folie. On a compris les ordinals, c'est génial. Mais alors quoi? Ces bons vieux NFT sur Ethereum, est-ce qu'ils sont complètement morts? Est-ce qu'ils vont revenir? Ou est-ce que c'est complètement fini? Pour parler de ce débat,
D'ailleurs, c'est ça la question, la vraie question. C'est quand est-ce que le bullrun pour les NFT sur Ethereum va revenir? Ou va peut-être venir ou pas d'ailleurs?
Eh ben c'est toute la question. En fait, c'est when et if, on a envie de dire. Ça veut dire quand est-ce que ça vient, qui est le côté plutôt d'ailleurs positif de la question. Ça veut dire on pourrait se dire ça va arriver. On pourrait se dire c'était un asset, comme beaucoup le pensent. Hein, en fait, c'est vrai que c'est un vrai. Enfin, si tu parles, je te parle même pas des normies. Hein. Je te parle de beaucoup de gens, d'anciens du Bitcoin, qui, pour certains, ont joué avec les NFT, qui pour beaucoup ont le regardé de loin aussi, et qui disent, c'est ce que je vous avais dit, c'était la hype de 2021-2022, c'était comme les ICO, c'est venu, c'est passé, et maintenant, le mot NFT, on n'entendra plus jamais parler. Et c'est aussi une possibilité, en fait, peut-être que les NFT sont morts, peut-être que les NFT sont morts et enterrés, peut-être que on va faire un bull run où beaucoup de gens vont s'éclater, mais nos bons vieux NFT vont rester éclatés pour le coup. Et donc, on n'est pas tout seul pour en parler. On a avec nous notre cher Arqué. En fait, Arqué, c'est toujours. Arqué, il est fidèle au poste quand on parle de NFT qui sont morts.
Miaou!
Il est là en général.
Toujours là pour la mort des NFT. Ouais.
Comment ça va, Arqué?
Ça va, j'ai pas dormi. En fait, j'étais venu pour écouter le best-of des intros. Là, il y en avait eu 3-4 qui étaient géniaux. Je pense qu'on allait continuer toute l'émission là-dessus. Mais apparemment, non. Est-ce que tu veux que j'intervienne tout de suite ou...
Déjà, juste pour rappeler, parce que ça fait longtemps que tu n'es pas venu, Arqué, artiste, tu fais quoi en ce moment? Tu mines des NFT en ce moment un petit peu?
Et justement, pas vraiment, parce que... on va peut-être... attends, Fred va peut-être dire bonjour aussi, mais non, en ce moment, ce n'est pas la folie, c'est très dur de miner, parce que c'est très cher de miner, et... est-ce que tu veux que je développe? Là, je suis parti. Hein,
Alors, on va... c'est très cher, c'est très dur. L'Ethereum, en plus, c'est vrai, les frais de gaz sont revenus à des frais de gaz de bull run, donc ils font mal. Donc on a le double effet, quoi. Ça veut dire qu'on a le gaz qui est cher, mais on n'a pas les volumes qui vont avec sur les NFT.
En fait, ma théorie, moi, sur comment ça se passe et comment ça risque de se passer sur ce bull run, c'est que ETH n'est pas utilisable pour le commun des mortels. Donc pour les NFT, c'est dur de ramener un engouement massif dessus de ce qu'on peut appeler le retail ou des newcomers, et il n'y a pas eu de consensus pour imposer un L2 en tant que blockchain phare pour les NFT et pour l'art aussi. Par exemple, sur Manifold, on a la chance, si on veut, d'avoir le choix entre Ethereum, Optimism et Base. Donc, pour l'instant, c'est quand même des trucs très frais, très nouveaux, donc on n'a pas de recul dessus. Quand on est un artiste, c'est difficile de se dire « bon, ça va être vraiment quelque chose qui va avoir une pérennité dans le temps ». Polygon a l'air d'avoir complètement lâché prise. Ils sont sur leur ZKVM. Ils n'en ont plus rien à foutre de tout, apparemment. Ils ont viré de toute façon la plupart de leurs effectifs, donc on ne peut même plus compter dessus.
C'est vrai que Polygon, c'est plus du tout dans… Enfin, cette année, j'ai jamais prononcé Polygon, je pense, là, depuis 6 mois. Là.
Moi, je l'avais prononcé beaucoup. J'avais beaucoup d'espoir dessus. Ils ont tout dégagé, donc écoute, poubelle, ils font ce qu'ils veulent, on va devoir faire sans. Là, je ne sais pas du tout, moi je vais peut-être aller sur Optimism, du coup, puisque c'est accessible via Manifold pour minter, mais c'est très compliqué, parce que qu'est-ce que tu veux minter un truc sur Ethereum où tu as 300 balles de fees, qui va te l'acheter? Tu vois, ça peut être viable sur des grosses collections, mais comme il n'y a pas d'engouement de hype, les grosses collections non plus ne reprennent pas du galon. Donc, je sais pas.
Alors, je pense que c'est vrai que c'est quand même un bon point de départ. Et mais aussi, moi, je vais te sortir ça peut-être à terme comme un contre-argument. C'est que je pense qu'en tout cas, sur cette phase de début de bull run, en effet, on est pour l'instant dans le moment des petits. Enfin, on va dire des collections qui partent de zéro, des airdrops, de choses pas chères qui vont passer de 0 à 0.1, 0.2, 0.5. On n'est pas sur du trade de gros volume, et en effet, ces gens-là ne sont pas du tout, du coup, ça sandboard, pas du tout, les volumes et les masses d'argent et les enrichissements se font aujourd'hui sur Solana. Ils se font aujourd'hui sur Solana. Et,
quand c'est pas en pause.
Hein?
Quand c'est pas en pause, Solana. C'est tellement
actif. Oui, c'est aujourd'hui sur Solana. Après, bon, il y a quand même aussi, il y a Base, où il se passe des choses un peu en ce moment aussi. Mm. Même si il n'y a pas un consensus, mais pour le coup, c'est un, on va dire, un layer 2 sur Optimism d'ailleurs. Mais en effet, tu as raison que dans la sphère Ethereum, moi, je vais un peu plus loin, c'est-à-dire que même si ça se passe sur Base, par exemple, ou même si ça se passe sur Optimism, comme tu dis, il n'y a pas non plus des bridges naturels, faciles, simples qui te font naviguer d'un côté à l'autre.
Ah bah, de toute façon, il faut oublier ce principe de bridge de NFT, c'est le truc, c'est une hérésie en fait, c'est hyper dangereux, ça n'a pas de sens au niveau philosophie de technologie, puisque tu vas pas délaître un NFT d'un côté.
Juste pour poser le décor, parce que je sens que déjà Rem, là, Rem, ça n'aime pas trop là, dès qu'on parle de bridge. les crypto-monnaies, en fait...
Problème dentaire ou je sais pas.
J'adore cette humour. Non, mais dès qu'on parle de bridge, c'est vrai que pour les crypto-monnaies, REM, tu vois, ça bridge facilement. Ça veut dire que ton ETH, par exemple, justement, ou ton USDC, tu vas pouvoir te l'envoyer via le réseau Ethereum, mais le même ETH, finalement, un ETH sur Ethereum égale plus ou moins un ETH sur Base. Enfin, et donc, tu vas pouvoir le convertir et du coup, tu vas payer moins de frais de transaction si tu utilises le même, si tu transfères cet ETH d'un réseau à l'autre, tu vois. Et en effet, pour les NFT, c'est pas du tout. Bon.
En fait, je ferai un cours particulier.
Est-ce, ouais. Est-ce que tu as un MetaMask?
Est-ce que tu as des éthers?
Rem, est-ce que tu as déjà utilisé une Uniswap?
Mais nous, on aime tout le monde, hein. On accueille.
non, justement.
Est-ce que tu as déjà acheté un NFT?
Mais qu'est-ce
donc,
que.
Tu vois, non. Non, mais on va revenir, non, mais on va revenir sur ce point. Non, mais je pense que tu as raison. En tout cas, tu as raison, Arke. Moi, je suis 100% d'accord avec toi déjà sur cette notion de frais de gaz et sur ces notions, en effet, de. En fait, moi, je vais un peu plus loin. Je pense qu'il y a des secondes layers même qui vont réussir à fonctionner. Tu vois, je pense que Optimism ou Base ou Arbitrum, ils vont peut-être avoir leur moment. Mais même dans ce cas-là, je ne pense pas que ça va avoir un impact sur les NFT. Sur les NFT mainnet, quoi, en tout cas.
Ouais, j'ai un peu peur de ça. Et je voulais ajouter un dernier truc avant d'oublier, c'est que sur la phase précédente, sur le cycle précédent, on a vu une grosse accumulation pré-bullrun, en fait, où les mecs ont balancé des premières collections, etc. Il y a Rarible qui était apparu. Donc ça avait vraiment permis au gros d'accumuler de l'ETH en balançant plein de collections dans tous les sens pour préparer leur bullrun. Là, le bullrun... On a atteint l'ETH un petit peu en surprise. On s'attendait à une montée, mais quand même à un gros retracement avant d'arriver là où on en est aujourd'hui pour que les gros acteurs puissent recharger, etc. Mais comme tu l'as dit, on a eu tout le narratif avec les ETF et tout ça. Donc, on est beaucoup plus haut que ce qu'on pensait en général. Donc, en fait, il n'y a pas eu de phase d'accumulation pour les NFT ni de phase de production des NFT, en fait. Donc là, tout le monde est un petit peu pris le couteau sous la gorge en se disant « Merde, mais en fait, je suis en train de rater le bull run. » Alors, bon, en vrai, c'est pas vraiment commencé. Hein. Mais tout le monde a ce truc où, à se dire « Merde, mais en fait, on est déjà dedans. On savait pas, quoi. On n'est pas capté. » Donc, je sais pas.
Ouais, on a été surpris, tu as raison. Et en effet, tu as raison de le dire parce que, en fait, le prix de l'ETH joue quand même Vous m'entendez toujours?
Oui.
Ouais, ouais.
Très bien. Le prix de l'ETH joue beaucoup hein, dans cet effet-là parce que, comme tu l'as dit, les gens qui étaient en ETH, déjà, tu avais quand même tendance à un moment donné, la plupart du temps, tu achetais des NFT. Bon, ils n'étaient pas censés, tu vois, normalement, enfin, en fait, l'achat de NFT aujourd'hui, pour les gens, c'est plutôt un appauvrissement qu'autre chose. On a eu cette fameuse discussion 1 ETH égale 1 ETH, à un moment donné, là, il y a un mois et demi, qui était là pour critiquer le fait que le prix des NFT se dévaluait en ETH par rapport. Plus l'ETH montait, plus le prix des NFT baissait. Et donc, en fait, bon, bah. Le fait que c'est plus intéressant financièrement de garder ses ETH que d'acheter des NFT, ça a accéléré cette tendance. Quoi. Ça a accéléré le fait que, bon, bah, c'est, en termes de ce qui se passait en 2021-2022, où justement le NFT en général, le marché du NFT surperformait par rapport à l'ETH, et là, en fait, bah, c'est l'ETH qui surperforme par rapport au NFT. Donc, d'un point de vue investissement financier, tu sais que même si tu aimes les NFT, même si tu aimes tout ce que tu veux, tu sais que ce que tu balances aujourd'hui dans tes NFT, ce n'est pas quelque chose qui va s'évaluer. Donc, tu dis peut-être que en ce moment, il vaut mieux accumuler de l'ETH plutôt que d'accumuler des NFT. Quoi.
Et c'est intéressant parce que tout le monde a toujours voulu rester sur ETH en termes de valeur de prix, de faire étalon, je ne sais plus l'expression, mais bref. Est-ce qu'on ne va pas avoir un retournement où les gens vont se dire, maintenant, je vais regarder peut-être le prix en USDT, tu vois ?
Oui, c'est déjà le cas, hein, quand tu vois dans l'introduction de John.
Frédéric, le voici, le voilà, on ne l'a pas introduit. Vas-y, Fred.
Il aime bien se faire introduire.
Je n'ai pas besoin d'introduire, moi. Surtout qu'Yarki aimerait bien le faire. Hein. non, mais quand tu l'as dit tout à l'heure, quand tu disais que les prix des blue chip avaient descendu, alors c'était peut-être dans une des introductions ratées, hein, il faut qu'on le dise pour ceux qui sont après. mais tu as beaucoup d'artistes, moi, ceux que je connais en tout cas, qui réévaluent leur prix en Ether en disant je baisse et tout parce que le prix de l'Ether est beaucoup plus haut. Et en fait, ils rééquilibrent leur cote, alors qu'avant, on aurait dit moi, dernière vente est à 2 Ether, je reste à 2 Ether. Quoi.
C'est ça qui est compliqué parce que justement les mecs en fait ils jouaient aussi sur la montée et la descente d'Ethereum pour faire des plus-values sur leur NFT, tu vois. Donc ça enlève aussi un attrait pour les mecs pro-traders, quoi, je veux dire, qui voient pas de valeur tellement artistique mais plus du trading, du sniping, etc. Donc en fait on a plus aucun attrait, il n'y a plus rien qui est bien en fait.
Non mais voilà, il n'y a plus d'attrait, en tout cas il n'y a plus un attrait spéculatif, c'est sûr. Et forcément, en fait, on se rend compte que la spéculation, ça aide quand même à l'évaluation de certains assets.
Et après, un truc qui vous concerne moins, mais l'Ethereum, le layer 1, est beaucoup moins liquide parce que y a beaucoup plus de solutions de stacking, de restacking qui existent. Bon, on va pas faire le round là-dessus, hein, mais qui fait que même les artistes qui avaient accumulé ou les entreprises qui avaient accumulé l'Ether pré-bullrun, ce qui expliquait tout à l'heure Arke, maintenant, en fait, ils les ont déjà placés sur d'autres choses. Et donc, en fait, leur Ether n'est pas forcément liquide. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi tout un engouement sur les layers 2 en dehors des NFT. C'est que ton Ethereum, même quand il ne faut rien, tu l'as stacké. Et donc, finalement, tu ne l'as pas dispo pour aller acheter des œuvres. Et d'ailleurs, les gros achats que j'ai pu voir, les gens venaient des fois même de cash et tout, et ils achetaient de l'Ether pour ça. Et ils ont mal quand ils achètent de l'Ether pour ça.
Donc, Donc, financièrement, en tout cas, plein d'autres alternatives dans le stacking sur les autres layers qui sont intéressantes. Et alors, juste pour le constat, donc, le constat, il me paraît assez clinique. Je ne sais pas si Jérémy aussi, qui est avec nous aujourd'hui, donc, comme ça nous permet d'introduire les personnes qui sont sur scène, sur le sujet.
Salut tout le monde, j'aime. Moi, pour en revenir un petit peu à ton intro aussi, je trouve que c'est un débat qui reprend aussi toujours un peu les mêmes problématiques. Et il y a cette problématique liée au NFT, qui est de savoir de quoi on parle. Parce que lorsqu'on parle d'un Bored Ape, on ne parle pas non plus d'un one-one sur une édition, je ne sais pas, de Clair Silver ou quelque chose comme ça. Et malgré tout, je trouve que sur la partie collectibles, il y a quand même un constat, c'est que toutes les promesses faites pendant 2-3 ans par les mastodontes, elles n'ont pas été remplies. Et parfois, à juste titre aussi, parce que construire un jeu vidéo comme veulent faire les Bored Ape, bah oui, on se rend compte que ça ne prend pas 6 mois, ça en prend plusieurs années, surtout lorsqu'on veut faire un jeu AAA. Et en l'occurrence, bah forcément, là, je crois que, quand même que dans l'environnement Yuga, il y a beaucoup de gens qui sont très déçus. Alors, il y a les Ape, il y a les Mibits aussi, on ne sait pas trop ce que cette collection est censée incarner. Il y a les Tenkaitf, enfin bref, je ne vais pas tous les faire, mais c'est vrai que l'environnement Yuga Labs, ça a déçu beaucoup de monde. Et il y a aussi l'affaire avec Kevin Rose et les Moonbirds. Et bref, toute cette partie, je trouve que ce segment des collectibles-là, en l'occurrence, a été très déceptif. Et il est vrai que les gens ont dépensé beaucoup d'argent dans ces PFP, dans ces avatars, avec l'espoir que ce soit des memberships, que ce soit des passes, des sésames pour un futur métaversique. Et en l'occurrence, bon, on en est loin. Et je ouais, crois que
t'as raison, Jérôme. Je suis d'accord avec toi. Hein. Puis voilà. Dave, en effet, il y a une vraie déception. Et la plupart des projets dits blue chip ont raté.
Voilà.
C'était leur passage. Artefact, bon, il est en mort clinique. La corporate Yuga, voilà, tous les jours, ça va de drame en drame, de déception en déception. Les et doodles
procès,
ont beaucoup.
Des procès aussi.
Des procès. Après, regarde, le contre-exemple, c'est quand même si évidemment, ils ont pris de la valeur, mais au final, dans tout cet univers, les Pudgy, qui sont un peu le bon élève de la classe, qui ont fait tout ce qu'il fallait, qui est le LucasNet, qui est le modèle entrepreneurial du monde des NFT. Ok, tu vois. Ils ne sont pas non plus l'explosion qu'on pourrait attendre dans un bull market sur une collection qui est la meilleure des collections NFT aujourd'hui.
Ouais, mais alors déjà, on dit que ce sont les meilleurs, les PG, mais comme on disait il y a un temps que c'était les Bored Ape, on dit que c'est les meilleurs dès lors que le floor augmente. Alors c'est vrai qu'il a fait énormément de bonnes choses, mais moi j'ai un peu peur aussi que les PG soient un peu trop incarnés par Lucas, justement, et qu'à la moindre erreur, ça s'écroule. Et malgré tout, je persiste à dire qu'un pingouin à 40 000 euros ou 50 000 euros, ça reste un bon prix, surtout que moi j'ai vendu les miens à 500.
Moi, j'ai vendu le mien à 2 ETH. J'ai vendu.
mais je trouve que c'est déjà pas mal. Mal tout, voilà. La question, c'est est-ce qu'un collectible de ce type-là doit avoir une telle valeur? Pour quel rendement? Pourquoi? Et honnêtement, j'ai toujours du mal à répondre à cette question.
Alors, je suis d'accord avec toi. Mais alors, on va juste parler d'un point de vue purement spéculatif. Parce que c'est ça aussi. On est dans l'excès. Enfin, on est dans un univers d'excès. Et qui dit bullrun dit sur-spéculation, malgré tout. Qu'on le veuille ou non, il y a ce côté-là. Et malgré tout, le truc, c'est que pourquoi plus un odd monk qu'un pingouin, quoi.
Eh bien, c'est là où je pense aussi qu'il y a quand même un narratif qui commence à s'installer. Et pour en avoir discuté, notamment, par exemple, dans la thèse de Grail Capital, que vous connaissez ici parce que c'est la firme fondée par Jean-Michel Pagnon, il y a quand même une question qui marque, c'est quelle blockchain va rester? Et par rapport aux Ordinals, ce qui est clair, c'est qu'il y a un narratif qui s'installe, c'est que Bitcoin, on sait très bien que ça va rester. Il y a aussi une forme de... Not Bank, c'était quand même un free mint de mémoire. Il y a quand même une forme toujours de distribution, de fair distribution, qui incite finalement à rentrer dans cet écosystème parce qu'en fait, ça encourage tout simplement l'équité ou en tout cas l'égalité entre les participants. Ce qui n'est pas forcément le cas, alors même si ça a été le cas pour les Bored Ape parce que c'est un free mint aussi, hein, mais bon, par la suite, ça s'est un petit peu dérivé vers une concentration des richesses. Mais je trouve que la question qui va rester, et c'est la même chose pour l'art aussi, dans l'art aussi, on investit dans des œuvres parce qu'on veut les voir durer. Et c'est aussi, là, il y a une telle diversité de blockchain, il y a une telle diversité de réseaux, on en arrive à un écosystème qui est encore assez émergent pour qu'on ne sache pas ce qui va durer, ce qui est pérenne. Et je pense que ça n'incite pas forcément tout le monde à revenir dans cette verticale-là. Peut-être que je me trompe, moi je le fais toujours, je mine toujours, mais comme tu le disais, en me disant que c'est un petit peu de l'argent perdu parce que c'est pas liquide, même les œuvres d'art, il n'y a plus de marché secondaire. Mais je crois que les gens se sont beaucoup brûlés les ailes et vont avoir du mal à y revenir, en tout cas tant qu'il n'y aura pas de... de alors, réseaux, de blockchain qui ont bien été identifiés.
Je pense que justement, c'est ce dont je parlais avec un consensus tout à l'heure. En fait, il faudrait qu'il y ait un acteur fort en tant qu'outil pour que les artistes
exactement.
Et les collections puissent minter sur un L2 de façon facile et avec des outils performants, avec par exemple des trucs de burn, des trucs comme ça, comme sur Manifold, hein, mais plus puissants, parce que Manifold, ça reste pas une marketplace en soi, en fait. Là où ça a vraiment cartonné les NFT, c'est quand OpenSea était encore une marketplace où on pouvait explorer facilement, et quand Rarible est arrivé aussi, parce qu'on pouvait naviguer dedans, et les artistes se disaient, ou les créateurs de collectibles se disaient, bah, je peux avoir une visibilité facile dans cet écosystème-là. En fait, tout est devenu un petit peu opaque, et on n'a pas vraiment de truc qui a explosé sur un L2. En fait, même si une grosse collection venait sur un L2 et exploserait, là, je pense que ça attirerait du monde, et ça créerait un petit début de consensus quand même, quoi, ouais.
Bah, il y a eu des tentatives, mais des tentatives un peu bizarres aussi. Zara, c'était pas forcément très intéressant.
Bah, excusez-moi quand même, le mint, le fameux mint de Xcopy,
ouais.
La semaine dernière où t'as un
mais
million
en parler.
De mints qui sont. Vas-y. Et voilà, vas-y Fred.
Là par contre, ce qui peut arriver, et on le voit arriver avec Xcopy et tout d'ailleurs, c'est que Coinbase, qui est derrière Base et tout, sponsorise, et c'était le cas pour Xcopy hein, là-dessus, hein, même s'il ne l'a pas dit, forcément, il a été payé déjà avant même de vendre son truc, et après, le clairement, truc a super bien marché.
Ouais.
Clairement, ça a été payé pour. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils le font, ils continuent à pousser certains artistes pour pousser Base.
Ils l'avaient fait avec Dick Emotion aussi.
Hein. Ouais. Et là, je crois qu'il avait dit en plus qu'on avait couché et que c'était super pas mal. Et Base, en fait, avec le combo, la marketplace qu'ils n'ont jamais réussi à faire côté NFT, mais qu'ils ont côté crypto, la chaîne, l'application, ils ont Coinbase Wallet et tu peux faire directement tes NFT depuis Coinbase Wallet. Et après, on dirait un peu leur cheval de Troie qu'ils ont à côté, mais qui marche un peu moins bien maintenant, c'est Farcaster. Il y a quand même aussi un gros lien entre Farcaster et Coinbase. Et là où ça marche un peu moins bien, c'est qu'il y a une hype pour avoir les airdrops de Farcaster, mais il y a aussi le problème un peu déçu des développeurs et quelques artistes aussi dessus, que je connais, mais qui ne sont pas des Français, c'est plutôt côté californien, qui disent bah, en fait, de toute façon, les frames, ça ne fait pas autant que ça, mais ça pourrait être un peu ce que décrit Arquet. S'il y avait un mix qui prenait, si l'aligot prenait, pour reprendre l'image d'un artiste français, il pourrait très bien avoir une sorte de plateforme globale, Coinbase, Farcaster, Base, où les artistes pourraient aller dessus avec des frais pas très élevés et il manquerait peut-être le côté marketplace où pouvoir trouver ces œuvres. Mais peut-être qu'on pourrait le
discuter. Non, mais là, il y a un feed. En fait, c'est vrai qu'il y a une puissance quand même. Moi, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire que Base est en train de réussir là où peut-être Tezos a raté il y a 3 ans.
Ou Binance.
Ou peut-être
oui, Binance.
Où certains ont raté, ça veut dire que tu as à la fois un mint accessible, à la fois potentiellement une communauté et à la fois un feed social. Et donc, ça rajoute une certaine... Enfin, potentiellement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant si Coinbase en fait quelque chose de bien.
Ouais, mais drivé par Coinbase, c'est ça qui est un petit peu dérangeant parce qu'on nous bassine quand même depuis un moment sur la décentralisation, etc. Le fait qu'on ait le pouvoir en tant qu'artiste de faire les choses librement. Mais là, on devient quand même très dépendant de gros acteurs. Donc, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Mais
ouais, après, moi, je vais dire un truc. Enfin, je pense que tout le monde préfère quelque chose d'un peu centralisé avec des volumes que rien du tout. Ah bah ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution.
Non, personne ne préfère ça.
Moi non plus, je ne suis pas d'accord, John.
Désolé.
Moi, je pense que pour que les artistes puissent... Enfin, je pense que si ça se passe comme ça, tu as quand même plus d'artistes qui vont pouvoir vivre de ça.
Déjà, pour vivre de ça, compliqué.
Moi, je te parle de revenus.
Maintenant, c'est quand même remettre beaucoup de valeurs qu'on a essayé d'instaurer pendant des années, les mettre au placard parce que c'est mieux que rien. Mais non, c'est
pas... Non, mais il y a certaines valeurs qui ne sont pas généralisables. On l'a très bien vu. Nous, on est...
En fait, après, c'est un autre débat, et je pense qu'on peut revenir sur le débat central. C'est un vrai débat sur la décentralisation. Moi, je reste persuadé qu'avoir un peu de centralisation, ne dessert pas la décentralisation. The yes needs the no for the yes.
C'est bien schizophrène. C'est psychiatrique, là.
Non, non, mais je pense que ça onboarder des gens. En fait, je pense que l'onboarding de gens les emmène à un moment T, s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent, vers de la décentralisation. Et que c'est ça le plus important. Mais pour revenir un petit peu au when, donc ouais. Là, on a ce décor quand même.
Alors, juste avant que tu te rends, enfin, c'est une transition, j'ai une information qu'on vient de pousser en DM. Il y a Foundation qui va arriver aussi sur Base début avril.
Ah oui.
Ah ouais, d'accord.
Donc ça peut aussi rajouter un truc. Parce que mais Foundation, j'aime vraiment bien ce qu'ils font.
C'est marrant parce qu'il y a aussi, enfin moi je trouve qu'il y a quand même un travail de plateforme qui commence à devenir intéressante. Alors Foundation, justement, j'ai aussi évoqué le fait qu'il y a quand même des marketplaces qui ont eu du mal à innover ou même qui n'ont pas forcément fait le travail qu'on attendait d'elles pour promouvoir aussi les artistes. Mais je trouve que Highlight fait du bon travail et puis en même temps malgré tout dans la partie art. Et il s'agit aussi de savoir ce qui va durer et ce qui va rester dans les NFT. Et il y a des segments dont on parle beaucoup, c'est l'AI art et le gen art, même si on a tendance à maintenant peut-être plus regarder même l'AI art. Et je pense aussi qu'on en arrive à un travail de plateforme très très spécialisée. Je pense à Braindrops, je pense à ce que fait la petite galerie, enfin le site de Kate Vass, K011, et puis j'en oublie d'autres. C'est des mini-collections, ce sont des mini-séries, ce sont des drops ponctuels, mais qui sont en train de structurer en tout cas une verticale de la partie NFT qui devrait rester pérenne et qui est regardée de très près. Et après, on est dans une micro-niche, mais je pense en fait qu'on a besoin aussi peut-être de petits acteurs, mais au même titre qu'on l'a dans l'art, dans l'art contemporain ou l'art traditionnel, avec une multiplication de petites galeries qui ont chacune leur identité. Ou peut-être qu'il ne faut pas s'attendre non plus à un acteur majeur qui concentrerait tout le monde, parce que dans ces cas-là, la partie curation est quand même très difficile, mais aussi à tout simplement l'émergence de petites galeries qui ont chacune leur identité et qui permettent aussi d'avoir une lecture, parce que pour le moment, il n'y a pas véritablement de lecture, il n'y a pas de art price dédié aux NFT, il n'y a pas d'étalons, il n'y a pas grand-chose sur lesquels se baser. Et je pense que c'est aussi un gros manque sur le site.
J'ai l'impression que le point de tout ce que vous êtes en train de dire, quand même, ça va un peu dans le sens, j'ai l'impression, du « ça reviendra, il ne va pas y avoir, en 2024, une excitation, on va dire, il ne va pas y avoir des volumes dans le monde des NFT qui seront aussi importants que ce qu'ils ont été en 2021. Parce que c'est ça, moi, la question que je pose. C'est est-ce que finalement, comme beaucoup de gens le disent, il y a eu les ICO, il y a eu les NFT, là, on va vers autre chose, et les NFT, bon, ça sera, comme tu le dis, il y aura des petites niches, il y aura certains experts, il y aura certains spécialistes, mais en tant que marché, finalement, ça ne va pas atteindre ces volumes.
Sur ETH, après, je pense que, comme on en a parlé depuis tout à l'heure, il y a des choses à faire sur les L2. Donc, je pense que ça sera là que ça va se passer. En tout cas, j'espère, parce que s'il ne se passe rien, on va se faire chier.
Et il y a malgré tout le segment NFT, mais je ne sais pas si c'est vraiment ce dont on veut parler aujourd'hui, qui est le segment NFT gaming, où pour le coup, bon, on en revient un petit peu, c'est un petit peu la frontière avec les Bored Ape, mais je pense notamment à des choses comme, on en parle toujours très très peu, et parce que c'est français, mais notamment à Cross Villages. J'en reviens encore sur Mochaverse et sur Animoca et leur Mochaverse, dont malgré tout la valeur ne fait qu'augmenter. Où je pense que sur ce segment gaming là, il y a un marché, il y a un volume parce que ça peut remplir une fonction et qu'il y a quand même aussi, générationnellement, on tend quand même vers un secteur qui est très jeune et qui est très bullish sur le jeu vidéo. Mais après, pour la dimension art, moi, j'ai du mal à voir les volumes revenir comme auparavant et plutôt à une sorte de spécialisation. Ouais.
Donc, on va même parler juste, par exemple, même des art blocks, par exemple, qui était quand même à la fois de l'art, à la fois un outil facile à manipuler, facile à spéculer aussi, mais dans le monde de l'art, avec tous les grands artistes d'art génératif qui étaient dessus, on ne va pas retourner au volume prix qu'on a déjà connu là-dessus, alors.
Il y a Rem qui veut parler. En même temps, Artblock, c'est ce qu'on en parle encore beaucoup en ce moment, John. Moi, je trouve que le problème d'Artblock, c'est... Mais tout d'avoir donné les outils, les engins disponibles à tout le monde, c'est très cool et ça va dans le sens à mon sens de l'histoire et de ce que doit être l'art, c'est-à-dire accessible. Mais ça a aussi entraîné énormément de dilution, en tout cas de la marque Artblocks qui incarnait une sorte de référence et d'acteur identifiable sur lequel on pouvait se baser pour acheter une œuvre. Je sais pas, t'en penses quoi?
Ouais. Je sais pas si Rem, tu voulais dire quelque chose déjà.
Ouais, je voulais. Ça me fait pas mal cogiter tout ce que vous dites. J'ai pris quelques notes. Alors moi, en fait, désolé finalement pour les idéalistes dont je faisais partie. Je dois l'avouer. Mais aujourd'hui, finalement, on constate qu'on évolue dans un monde, dans un écosystème où la boussole, la principale boussole, c'est la spéculation. Et en fait, je pense que aujourd'hui, l'intérêt s'est déplacé sur des blockchains tels que ou des écosystèmes tels que Solana, Base, SEI, Ordinals, évidemment, etc., etc. Parce qu'il y a eu des opportunités financières qui sont apparues, notamment grâce à des airdrops. Donc finalement, c'est de l'argent gratuit qui est venu inonder un peu tout ce marché-là. Et donc forcément, les gens ont pris ont pris ce qu'ils avaient à prendre sur Ethereum pour le déplacer sur ces blockchains-là. Aujourd'hui, les opportunités financières sont encore sur ces blockchains et non sur Ethereum. Mais je pense qu'il y a quand même de l'argent qui a été créé et une fois que ce filon sera complètement tari, que ce soit le filon des meme coins ou quoi, finalement peut-être que, enfin moi c'est un peu mon espoir, donc je garde une part d'idéaliste, c'est que finalement cet argent va revenir sur Ethereum parce qu'on a des collections plus pérennes, des communautés plus solides, des projets qui ont beaucoup plus de sens. Mais alors, la question, c'est aussi pourquoi toutes ces collections-là n'appliquent pas les mêmes recettes qui ont fait ce succès sur Solana ou quoi, mais sur Ethereum. Pourquoi il n'y a pas eu des airdrops de Azuki, des airdrops de Yuga, etc., etc.
Ah, parce que ça coûte très cher en fees, en fait.
C'est les coûts. Ouais.
C'est déjà vrai, hein. Le flux financier, quand tu as des grosses ventes et des gros volumes côté Solana, quand tu analyses ça, finalement, l'argent retourne souvent sur Ethereum. Enfin, il y a une sorte de vase communicant, entre guillemets, il consolide pour aller sur Solana. Comme un peu sur Ordinals, les mecs ne gardent plus pas qu'en Ordinals, après ils gardent juste des BTC et puis voilà. Par contre, ce que tu rates, je pense que tout le monde aussi, mais ça va bientôt arriver, c'est qu'il faut un narratif à chaque fois qu'il y a un bull run et tout. Et cette fois-ci, c'est pas basé sur les valeurs de la décentralisation et tout. C'est vraiment, pour l'instant, ce qu'on voit avec les meme coins et tout, c'est vraiment je m'en balèque, c'est le côté dégène et c'est vas-y, on le fait. Et je le vois très bien. J'ai un ami hier, il a fait un NFT, il l'a fait sur Solana totalement à l'arrache. Il a dû le faire en 30 minutes et il l'a super bien vendu. Il a fait 20 sols. Il a même pas le temps de tweeter que déjà ses collectionneurs, alors qu'il vient juste d'arriver sur Solana, c'est plutôt un ancien d'Ethereum et de Tezos, il a fait 20 sols en même pas une demi-heure. Et juste, mais c'est parce qu'il a pris un meme coin, l'image d'un meme coin, il a mis son filtre, son petit logo habituel, et ça s'est vendu comme ça. Et c'est le côté mais vraiment décomplexé du meme coin qui vient aussi dans les NFT. Genre, je m'en balaque et tout, c'est fun. Et les gens adhèrent à ça, mais pas parce qu'ils y voient un placement financier, c'est juste, ça leur a fait plaisir. Un sol, parce qu'ils vendaient ça un sol, ça coûte 180$, je pense, encore maintenant, peut-être 190. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être le NFT, on va le prendre, plus pour avoir toute la promesse, genre c'est de l'art, on finance de l'art et tout, et on aura un marché secondaire et tout, c'est juste, j'ai un truc comme ça, comme les pingouins et tout, j'ai un truc fun, et il n'y a pas forcément d'utilité plus loin que le pingouin, je suis désolé.
C'est pas antinomique, tout peut exister, coexister ensemble. Mmh. J'espère que ça ne va pas que être des têtes de Pépé tout le temps, même si j'adore Pépé, hein, graphiquement c'est génial, mais il n'y aura pas que ça, je pense. Ouais.
C'est une vraie question. Je pense que tu as raison de parler des narratifs. Parce que tout, en fait, tu as une accumulation de deux choses quand même. Et c'est ce qui fait que pour moi, en fait, on n'est peut-être pas complètement encore dans ce que j'attends, moi, de la part d'un bull run, en tout cas, même si peut-être qu'on est en bull run. Mais il y a deux éléments, moi, qui sont importants pour moi, que j'espérais attendre dans ce bull run. C'est vrai que c'est un. L'arrivée de nouveaux capitaux. Mais c'est vrai que quand je dis nouveaux capitaux, je le voyais plus en termes de nouveaux wallets. Et en fait, là, le truc, c'est que tu as peut-être des capitaux qui arrivent grâce à l'ETF, mais en fait, tu n'as pas les wallets qui vont avec. Et c'est ça qui fait que, en fait, c'est plutôt là une vraie, un bull run. Tu vois, autant on a eu un bull run culturel en 2021, autant là, on est sur un bull run complètement financier, en fait, hein, qui est ouais. drivé par des banques, quoi, tout simplement.
Pas si culturel, quand même, le dernier bull run.
Non, mais enfin, quand même.
C'est beau,
non,
quand même, à le dire. Mais, mais après, c'est surtout que le bull run n'a pas vraiment commencé. Le bull run, c'est quand même un peu ce qui se passe après l'ATH. Pour l'instant, on est encore là à consolider au niveau de l'ATH. Ils en ont parlé beaucoup à BFM, etc. Ça commence à parler dans les foyers. Mais le vrai bull run, il n'est pas encore effectif, je pense. Hein.
Bah. Ouais, ouais, t'as quand même bon. Enfin, c'est une question de définition. Mais je pense que, enfin, moi, il me manque en fait ce point de départ du particulier. Enfin, en fait, là, ce qui était un peu incroyable sur le dernier bull run NFT, c'est que t'as vraiment beaucoup de gens qui se sont mis à faire leur MetaMask, à créer leur wallet pour aller développer un nouvel usage.
Et là, on en a quand même des nouveaux. Moi, je vois côté association Ethereum France, par exemple, on a eu un pic cette année. De nouveaux inscrits qui sont des premiers inscrits, j'ai plus le chiffre en tête et tout, mais on a quand même des nouveaux qui arrivent, hein, mais qui arrivent un peu à cause de ce que racontait Rémi aussi, le côté airdrop, c'est qu'ils ont vu des potes et tout qui leur disaient tiens fais ça et tout, donc ils ont fait des wallets des fois sans forcément apporter beaucoup d'argent dans les cryptos, mais pour fermer des airdrops, plus parce qu'il y avait des quêtes des fois qui n'étaient pas obligés de faire des transactions, il fallait juste aller sur des Discord ou retaguer des trucs sur Twitter et autres. Donc il y a eu quand même des nouveaux, enfin faut pas dire qu'il n'y a pas eu de nouveaux, mais peut-être que c'est des nouveaux qui sont venus les poches vides, oui.
Après, je peux juste ajouter quelque chose par rapport à un point que vous avez mentionné, mais je pense qu'on ne souligne quand même pas assez sur, parce qu'on parle majoritairement du bull run pour les NFT Ether, Ethereum, ETH, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, que ça soit même d'ailleurs pour le marché secondaire, mais aussi sur le mine, sur le marché primaire, moi, les frais, je les trouve indécents et ça me bloque énormément. J'ai un artiste, par exemple, que j'aime collectionner et que là, j'attends depuis des semaines pour pouvoir minter une collection qui est ouverte. En l'occurrence, d'ailleurs, son œuvre est très peu onéreuse. J'en ai pour plus cher de fees. Et c'est pas possible. Et honnêtement, je veux dire, moi, je l'ai déjà fait lors du précédent bull run. Enfin, j'ai déjà fait et je me refuse aujourd'hui à le faire parce que c'est pas possible. Et il s'avère que la problématique est la même pour le marché secondaire parce que auparavant, lorsque les frais étaient peu élevés, par exemple, il y avait beaucoup de liquidités qui se passaient sur les offres. On pouvait faire des offres en wrap Ether et en l'occurrence, ça a amené beaucoup de liquidités. Aujourd'hui, ces offres-là, on peut pas non plus les accepter parce que ne serait-ce que si c'est la première fois qu'on ouvre cette collection, qu'on liste cette collection, eh ben, en termes de frais, ça coûte très cher et ça coûte parfois plus cher qu'une offre. Et fondamentalement, ça donne un système qui est cassé et qui ne pousse personne à ni à minter ni à acheter. Et c'est une vraie problématique du Layer 1 Ether qui, pour le moment, n'est pas résolu.
Alors, donc, Layer 1 Ether, est-ce que c'est mort?
Non, c'est pas vraiment mort. Mais après, Jérémy a raison parce que moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de free mint cette année. Parce que je trouvais le concept génial sur les donations qu'on peut faire sur Manifold, où en gros tu fais un free mint et les gens donnent s'ils ont envie, et s'ils n'ont pas envie, bah ils donnent pas. Mais ils ont leur NFT, ils sont contents, et ils peuvent supporter un artiste. Là, le problème, comme l'a dit Jérémy, c'est que les fees ils sont tellement gros que personne ne va prendre un free mint. En fait, si tu en as pour 100 balles pour le minter, bah qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, pareil, le marché de secondaire est très compliqué à ce niveau-là, hormis sur des grosses collections. Où finalement ça a peu d'impact sur le prix global, pour des nouveaux artistes, c'est très dur de commencer sur Ethereum. Là. Enfin, même c'est impossible, parce que même un artiste installé, il a du mal. Donc, ouais.
Ah, mais, même pour, mais alors ça veut dire que c'est ça en fait. Est-ce que donc, vraiment, donc ça veut dire qu'a priori, de tout ce qu'on dit, il n'y aura pas cette année ou l'année prochaine de bull run sur les NFT sur ETH?
Ça dépend ce que tu définiras comme bull run. En termes de volume, non. En termes de prix, peut-être. Et peut-être parce que aussi bien des anciennes collections, des pépites pourraient aussi apparaître. Quelqu'un qui aurait beaucoup de frais, qui ferait une collection, tu vois, mais genre en disant je suis nouveau blue chip et tout sur Ethereum, avec une grosse communauté et beaucoup de marketing, peut très bien aussi réussir à faire un nouveau CryptoPunk, mais faire une collection qui marcherait, en tout cas en PFP. Mais ça demanderait beaucoup d'argent. Mais donc ça veut dire un peu ce que dit Yerke, hein. C'est que c'est pas forcément mort le layer 1 d'Ethereum, c'est juste que ça va rester pour une certaine caste. C'est comme dire, tu peux vendre de l'art aussi bien dans une petite galerie et tout, et t'as les trucs qui se vendent à Drouot, t'as les trucs qui se vendent sur Sotheby's et tout, machin. Et c'est pas les mêmes opérateurs. Et une vente à Drouot, elle a un prix, hein. Tu payes 20% en plus pour tout le côté Drouot et tout. Sotheby's, je pense qu'il y a surtout un prix et tu payes le marketing, ça sera pareil. Quand tu feras une vente sur Ethereum, t'as une sorte de prix qui sera dessus et qui fera que ça sera une classe d'actifs très très cher et très rare.
Et avec très peu de volume.
Ouais. Mais par contre, le volume en termes de prix sera énorme. Mais en termes de quantité, non, ce sera pourri.
Bon, ça veut dire qu'en gros, Ethereum, tu le mets au frigo quand même, quoi.
Mais c'est normal parce que les NFT n'ont pas évolué. Le format des NFT n'a pas évolué sur Ethereum. Et la chaîne Ethereum n'a pas évolué pour ce traitement-là. Ils ont même poussé, puisqu'ils avaient des problèmes de scalabilité, pour aller sur d'autres layers. Et en tout cas, vous n'avez aucune évolution technologique qui fait que les NFT peuvent changer. Et le prix du gaz, il ne va pas... se dire, tiens, spécialement par un NFT, je vais être moins cher. Non, il va être toujours plus cher parce que, de toute façon, c'est un actif qui résiste. Il faudrait beaucoup d'évolutions technologiques là-dessus.
C'est ça. Fred, toi, comme tu t'y connais beaucoup sur l'aspect technique, est-ce que normalement, dans les évolutions des procès de mise à jour d'Ethereum, il n'y a pas ça qui est dans le...
Non, même ça va devenir encore pire, puisque bientôt, on pourra faire... Alors, le stacking ne va plus être à 32 Ethers, il va passer à 1000 Ethers. Il n'y a rien qui pousse. Et en plus, c'est même pas qu'une question techno, c'est une question de méta aussi qui se passe dans le layer 1 d'Ethereum. C'est quasiment le layer 1 d'Ethereum, c'est quasiment la grosse partie des bots. Et donc, c'est front-runner et tout machin, c'est vraiment un univers impitoyable. C'est plus du tout un univers pour les humains. À part 2-3 transactions et tout, mais des très fréquents sur les layer 1, c'est quasiment que du bot. Donc, c'est pas fait pour vous à la fin. Et il n'y a pas d'évolution, en tout cas technologique, dans le pipe pour faire ça. Et ça ne dérange personne. Hein.
Côté Ethereum, ça nous dérange nous quand même.
Côté Ethereum, dans la fondation et dans les gens qui travaillent sur Ethereum, j'ai eu peu de propositions sur faire ça. Il y a des évolutions sur comment traiter et comment faire un format d'NFT avec des parties un peu modulables pour essayer d'intégrer par exemple aussi les royalties un peu manière, mais c'est pas les trucs vraiment en tendance et tout. Actuellement, la tendance est vraiment de refaire naître un peu la DeFi et de faire évoluer le stacking. Mais c'est vraiment protéger l'actif et protéger les valeurs dessus. Il y a une sorte de méta côté Ethereum et Layer 2 qui est, moi j'ai une TVL d'un côté et pique-moi ma TVL ou ne me la pique pas. J'essaie de garder de l'argent qu'il y a sur ma Layer pour pas que ce soit l'autre qui me la cannibalise et qui donc après soit plus actif. Quoi.
Bon, ok, donc c'est mort.
C'est ma vision, mais vous savez très bien que je suis dépressif de base.
Non, mais est-ce que c'est pas un réel aveu d'échec de la technologie Ethereum, finalement, parce que si on ne peut plus l'utiliser et que c'est complètement verrouillé entre guillemets par les bots massifs, et que comme tu le dis, c'est plus pour les humains, en fait, c'est quand même un petit peu embêtant, quoi, non ? Par rapport aux promesses qu'on avait dans le passé, finalement.
Non, c'est pas si choquant que ça, parce que quand tu prends, par exemple, un système d'échange, un système bancaire et tout, tu n'opères pas et tu ne travailles pas sur le corps du réseau, quoi. Tu travailles toujours sur des réseaux plus petits des réseaux plus
grands. Alors du coup, ça va se passer sur un layer 2, parce que Ethereum va rester,
oui.
Il va y avoir un layer 2, on revient à quel va être... En fait, le problème quand même qu'on a avec les layer 2, il faut le dire, tu as une valeur perçue d'un NFT sur Ethereum qui est toujours supérieure à une valeur perçue sur n'importe quel autre layer.
Si tu le vends en Ethereum ou AP, si tu le vends sur le token natif de la chaîne, mais oui, si tu le vends en Matic ou autre, ok, mais si tu le vends en Ethereum ou AP sur cette chaîne-là, ce qui existe, techniquement, tu es au même prix. Hein.
Ce que veut dire John, c'est que
parle de la valeur perçue. Ouais.
Voilà, la valeur perçue, mais non, parce que vous avez un problème de, comment dire, de persistance de chaîne. La L2 sera toujours plus faible que la L1 parce qu'elle repose une partie de son consensus et de sa sécurité sur le layer 1. C'est sûr, même moi, et d'ailleurs c'était narratif pour les Ordinals, je préfère toujours un NFT qui est sur Ethereum que versus un NFT qui est sur Base. J'ai plus confiance en Ethereum que Base en termes de pérennité.
C'est ça le gros problème.
Mais donc voilà, c'est parce qu'on met que l'art et le NFT, sa pérennité, parce que le NFT c'est ça, c'est la preuve de cette possession-là qui ont une chaîne. Et si la chaîne, elle est plus faible, ta preuve de possession, elle est moins forte.
C'est ça. Je trouve qu'on perd beaucoup, justement, des idéaux qu'on avait, même à ce point de vue-là, sur la pérennité totale de ce qu'on a minté. Moi, j'ai toujours défendu ETH, justement, en L1 pour ça. Et là, je me retrouve à plus pouvoir tenir ce genre de discours, parce que c'est pas vivable, de toute façon. Donc, ouais.
Je sais pas. Après, je fréquente beaucoup d'artistes ces temps-ci, dont des Français, et ils sont super sympas. Ils ont moins ce côté-là. Ils ont besoin que les gens possèdent leur art. C'est plutôt, ils voient ça comme pas du mécénat, mais une sorte de partenariat entre toi et tes collectionneurs.
Et bien sûr, mais si
la ils aiment bien les airdropper, tu vois, faire des trucs un peu différents, même changer de chaîne et tout. Ils sont moins sur le côté, il faut que mon collectionneur me possède.
Ouais, mais ça, c'est les artistes, non, mais les portefeuilles.
Ouais.
C'est ça, on l'a toujours fait, des airdrops, des cadeaux, des trucs, mm-hmm. des liens avec la communauté. Là, c'est pas tant le sujet, c'est est-ce que, par exemple, Baze, ça va rester dans voilà. 10 ans, tu vois.
Il y a quand même une recherche de la pérennité au moment d'investir dans une œuvre, enfin d'investir ou d'acheter une œuvre d'art. Et d'ailleurs, c'est quand même la pratique des gros portefeuilles, c'est est-ce que cette œuvre va durer. Et si on le fait sur une blockchain, moi je ne sais pas ce que sera Arbitrum. Il y a Claire Silver là qui vient de sortir un mine sur Arbitrum. Même il est peu onéreux, mais je me pose la question de savoir si ça vaut véritablement le coup. Je ne sais pas ce que deviendra Arbitrum d'ici 2-3 ans. Et quand on voit l'état de Polygon, par exemple. En l'occurrence, ça pousse pas forcément à faire confiance à l'avenir pour ça, quoi.
Ce qui manque peut-être, c'est d'avoir fait évoluer les NFT pour avoir une solution qui fait qu'il est pérenne malgré la blockchain. Et ça, je vois pas trop comment, mais c'est le fameux bridge entre chaînes qui n'existent pas. C'est décorrélé le NFT de la chaîne.
On a un problème sur Ethereum Mainnet, mais on a un problème, on l'a vu, enfin, c'est pas un second layer, mais on l'a quand même vu quand il y a eu le moment Tezos. En 2021-2022. Alors, il y a toujours une valeur perçue qui était faible sur Tezos, mais avec le temps,
elle est toujours, je crois, non ?
Elle a, avec le temps, elle s'est plutôt aggravée, même.
La communication de Tezos a été très bonne. Et d'ailleurs, ils ont un nouveau membre du board, d'ailleurs, si vous l'avez vu hier, la news.
Non.
Fleur Pellerin est au board de Tezos, maintenant.
Oh là là.
Notre ancien ministre. La main sur le cœur.
Vivement Bruno Le Maire.
Bruno, si tu nous entends.
Je sais pas. Là, est-ce que c'est une bonne news? Bon, alors, du coup, on l'a vu.
En effet, John, quoi qu'il en soit, la L1 est impraticable et il y a un gros problème avec les L2 qui pourraient servir d'alternative parce que les gens sont quand même en recherche d'une L2 fiable et pérenne et pour le moment, elle n'est pas identifiée.
Et la guerre des L2 en dehors des NFT, hein. La guerre des L2 qui est prédite déjà côté Ethereum, elle n'est pas faite encore. Elle n'est pas faite parce que tout le monde se regarde, tout le monde attend certains airdrops, tout le monde attend certaines mises à jour aussi d'Ethereum. La guerre des L2 n'a pas encore lieu.
En fait, c'est très dur et c'était ça vraiment en fait là. En fait, le dernier bull run, on se rend compte quand même qu'il y avait une sorte d'alignement des planètes assez incroyable, quoi. Ça veut dire que on était dans un univers où le dernier bull run, c'était un peu l'avènement d'Ethereum, quoi. C'était le moment où t'avais plein d'autres blockchains qui se faisaient la bagarre pour peut-être prendre le lead, justement. Et Ethereum a été confirmé comme la blockchain des smart contracts, quoi. Et finalement, notamment à cause de ces problèmes de scalabilité et de gaz, là, c'est ça, quoi. On est paumé. On le dit, quoi, de futur is multi-chain. Mais en fait, le multi-chain, on n'a pas non plus. Enfin, on n'est pas outillé, on n'est pas prêt. En fait, j'ai l'impression que. Et c'est pour ça qu'il y a un souci de bull run sur les NFT. Et peut-être que. Je vais vous dire le fond du fond du fond de ma pensée qui est assez. Qui va peut-être en déprimer certains.
C'est que tu vas tout revendre. Tu revends tous tes NFT de John.
Je ne les revends pas. En fait, j'y crois à 2000%, mais j'y crois de manière assez faible pour le bull run en cours.
D'accord.
J'y crois limite pour 2030.
Tu vois, je suis d'accord.
Quand tu auras un consensus plus important, quand il y a, tu vois, là, on est un peu, la poussière n'est pas retombée. Tout le monde est paumé. On ne sait pas quelle wallet on doit utiliser, on ne sait pas quelle plateforme on doit utiliser, on ne sait pas quelle blockchain on doit utiliser. Et donc, tu vois, déjà pour l'onboarding des masses, je pense quand même que c'est catastrophique. Et même pour le maintien des gens qui sont dans l'écosystème, c'est aussi catastrophique. Donc, pour l'instant, moi, je crois vraiment que le bull run qu'on va vivre aujourd'hui va être un... il va se passer des choses et je pense que par exemple on peut s'attendre à un moment peut-être à ce qu'il y ait un AI moment sur lequel les collections brain drop et fellowship il va y avoir de l'excitation là-dessus parce que c'est une niche très forte, très définie et qu'il va y avoir un moment, une sorte d'alignement des intérêts de gens qui quand même veulent soutenir certaines formes d'art notamment dans les AI et puis il y a un nouveau narratif qui n'a pas encore été complètement utilisé, mais on reste en fait là aujourd'hui, voilà, sur quel nouveau narratif on peut mettre en place, parce que on est exactement dans une logique où, comme tu as eu les ICO en 2017, les anciens narratifs, on n'y croit pas trop, parce qu'on sait qu'il y a déjà eu des ATH qui sont x10 par rapport aux valeurs actuelles et qu'on n'arrivera jamais à les dépasser, donc bah, ça ne sert à rien de les pousser trop fort non plus, quoi. Et
ouais. Après, tu veux y aller, tu veux dire quelque chose, Arc?
Ouais, je voulais juste dire que je suis à la fois tout à fait d'accord avec ce que vient de dire John, et à la fois, on est dans la crypto, donc pour mettre un message un petit peu plus positif, pas dire que les choses sont mortes, c'est que, en fait, ça peut aller très vite. Vous savez très bien que pendant le bull run, il se passe un an ou deux, on a l'impression d'avoir vécu trois vies, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer, je pense.
Je suis 100%, qu'il va se passer quelque 100%. Chose. 100% d'accord avec toi. Et en fait, quand je dis ça, et moi je vais vous dire un truc, et c'est là que je me corrige moi-même, à chaque fois que je pense 10 ans, ça se passe en 6 mois.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais.
Vas-y.
John, pardon, je voulais pas te couper. Non, mais après, je pense aussi qu'il faut aussi que les choses culturellement prennent le temps de se poser. Il y a quand même quelque chose qui est assez flagrant, c'est-à-dire que. Voilà, ça fait 7 ans que les CryptoPunks sont sortis, les Mooncats, etc. Et finalement, ça commence juste à être digéré, et là, à faire les sujets de documentaires, les sujets de livres, voilà. Il faut quand même un certain temps avant qu'une culture, qu'on prenne du recul sur une culture, et qu'on sache ce qui est légitime ou pas. Et je reviens d'ailleurs sur notre blockchain qui est Counterparty. Moi, par exemple, je crois vraiment à un gros bull run de on ne dit pas NFT pour Counterparty, mais vous m'avez compris, d'objets à collectionner, de collectibles Counterparty. J'y crois à mort. Et en même temps, parce que là, en fait, les 10 ans, ça va être globalement les 10 ans de Counterparty. Et il faut un sacré bout de temps pour que les acteurs créent une histoire et un héritage, etc. Et c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que alors peut-être pas en 2030 parce qu'en effet les choses vont très vite dans le NFT, mais qu'il faut peut-être aussi un peu que ça se tasse, parce que le bull run NFT de 2021, c'est quand même très récent, quoi.
C'est ça, mais en effet, et quand je dis 2030, peut-être que c'est l'été 2025 aussi.
Voilà.
C'est ma deuxième thèse. C'est que je pense que, comme on l'a dit, si on pense que le bull run n'a pas commencé, je pense qu'on est, enfin, c'est très difficile d'identifier est-ce qu'il a commencé ou de quelle manière il a commencé et combien de temps il va durer. Mais moi, j'ai une petite hypothèse là-dessus qui est que ce bull run-là pourrait être un peu plus long. Enfin, on pourrait avoir les deux prochains étés où il se passe des choses avec peut-être, tiens, jette une pièce, cet été, en fait, en effet, un dégène summer. Je crois que j'en parlais avec toi hier, Jérémy, ou je ne sais plus. Cet été, un dégène summer. Donc, en effet, l'apothéose dans les bitcoins et les memecoins et les ordinals. On retrouve d'ailleurs, enfin, on retrouve des gros parallèles de narratifs. Moi, je suis persuadé que les memecoins sont vraiment l'équivalent des PFP quand même qu'on a eu en 2021. Mmh. Et c'est des communautés, c'est la même chose. C'est des gens qui se retrouvent sur leur Discord parce qu'ils connaissent des coins, qui se fédèrent plus autour de 10 000 pièces générées aléatoirement, mais finalement autour d'une image. Mais c'est à peu près la même chose. Et d'ailleurs, on retrouve certains ensuite qui vont vouloir créer des projets derrière, malgré tout, autour de Lovecoin pour le développer. Et peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont rester, comme les Pudgy Penguins, des projets établis. Donc ça, c'est la même chose. On retrouve d'ailleurs sur les Ordinals aussi ce côté un peu de certains NFT, un peu... Enfin voilà, c'est le marché juste déplacé là, sur des centres où il y a plus d'argent aujourd'hui. Et donc, on va avoir un peu... Je pense que ça peut continuer, parce que voilà, il y a un narratif Bitcoin avec l'ETF, il y a un narratif Memecoin. Le moment, enfin, est-ce que finalement, dans ce marché financier, ce n'est pas les ETF qui vont guider un peu le marché? Donc là, il y a beaucoup de gens qui spéculent sur le fait que l'Ethereum ETF va plutôt être, débouté, enfin,
rejeté.
Donc les gens spéculent, je pense, un petit peu là-dessus en ce moment. C'est pour ça que ETH sous-performe quand même un peu par rapport à Bitcoin en général. Et par contre, c'est une histoire qui va durer, je pense, ça peut durer fin 2024, début 2025. En fait, il y a un moment donné où ça peut partir de l'ETF ou ça peut partir d'autre chose. Mais je pense qu'il va y avoir un moment Ethereum qui peut se déclarer au sein de ce bull run. Alors, est-ce qu'il sera énormément volumineux ou est-ce qu'il sera light, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y aura un moment où il va se passer quelque chose. Et je ne dis pas d'ailleurs que les... les grandes collections PFP vont avoir leur petit moment aussi, ils ne vont peut-être pas revenir à leur ETH, mais je pense que certaines pourraient faire un x2, x3 à un moment T quand même. même s'ils valent plus grand chose, donc c'est pas, on va dire, c'est pas difficile. Mais je pense qu'il va y avoir ce moment ETH à un moment donné, mais je pense que voilà, c'est pas le moment tout de suite. Ça va peut-être être à la fin, fin d'année, peut-être début d'année prochaine, si le bull run, comme je l'imagine, traîne un peu sur, on va dire, une grosse année à partir de maintenant, quoi. Mais bon, c'est, là, on est complètement dans du j'en ai aucune idée, et je dis juste un, c'est juste du gut feeling, on va dire, quoi.
Mais pour les PFP, est-ce que tu y crois, enfin, pour moi, pour les PFP, en revanche, ça dépend énormément, si on nommait les CryptoPunk, ça dépend quand même aussi énormément de ce que ces collections ont dans le ventre et en termes de deliver, quoi, en termes de ce qu'elles peuvent fournir aussi.
Mais Yuga, ils ont une trésorerie de psychopathe, ils ont une boîte, ils ont quand même un énorme truc, Yuga. Bon, je parle de Yuga parce que c'est quand même la moitié des PFP. Mmh. Je vois pas comment à un moment, tu vois, là on est vraiment dans la phase, on va dire, de quand tu parles des marchés, là on est dans la phase de capitulation de Yuga, quoi, tu vois. Et cette capitulation, elle est accompagnée d'ETH. Enfin, je pense que c'est lié quand même. Enfin, Yuga et ETH et NFT, même si on parle de l'art, même si on parle de ce qu'on veut, Yuga, ça a représenté, même pendant le Rule Room, les assets Yuga ont représenté la majorité des volumes, des volumes NFT. Donc, il y a quand même, c'est lié un peu à eux. Et je peux pas croire, d'ailleurs, qu'avec le retour même de Crypto Garga aux manettes, qu'il soit, je peux pas croire qu'il soit, enfin, je dis pas qu'ils sont pas incompétents, mais même en étant incompétents, il y a forcément un moment où ils vont avoir un éclair de génie et où il va se passer quelque chose dans l'année qui vient. Cet éclair de génie, ça peut être juste, d'investir 100 millions pour lister leur floor, ou ça peut être je sais pas je pense qu'à un moment donné ils vont faire quelque chose quand même, et donc les PFP, malgré tout, il va se passer quand même malgré tout quelque chose sur les PFP, parce que enfin le fond du fond, c'est que Yuga va rester quand même, et alors, leur ça, raison. Enfin,
alors ça, John, tu sais, la fondation Tezos, elle est assise sur un trésor de guerre. Sais pas si on en parle encore dans 10 ans, hein, tu vois. Ce serait pas la première compagnie qui est assise sur des centaines de millions de dollars, ou si ce n'est des milliards, et qui disparaît. Donc c'est pour ça que je suis pas aussi optimiste que toi à leur sujet. Mais l'avenir me donnera sûrement tort.
Non, sauf que la trésorerie de Tezos, c'est des bitcoins. C'est le seul truc qui est ça.
Putain, c'était le meilleur move que Tezos a jamais fait, quoi.
C'est pas un move volontaire, c'est parce que la SEC
a
figé les fonds, et voilà, quoi. Et c'est une des entreprises qui a le plus de Bitcoin, quoi. C'est dégoûtant.
Mais je voulais juste mentionner pour ceux qui veulent acheter de l'art aussi, parce que je trouve que malgré tout, on a très peu parlé malgré tout des artistes et de leur économie à eux. C'est bien aussi de s'intéresser, vous le faites tous au NFT Morning, hein, aux plateformes indépendantes. C'est plutôt pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas au courant. Moi, je trouve qu'il y a une initiative que fait la galerie Expanded Art, qui est vraiment très intéressante. C'est que, en termes de pricing, en tout cas, eux, ils pricent nativement leur œuvre de façon dynamique en ETH. C'est-à-dire que le prix en fiat est fixe. Et en revanche, du coup, en crypto, il bouge selon le cours de l'Ether. Et alors, je sais qu'il y a eu ce débat-là pour la communauté artistique, notamment sur des œuvres qui avaient été précédemment mintées. Là, en l'occurrence, c'est vrai que bon, on peut pas demander à un artiste qui a dépensé 100 dollars de fees il y a 2 ans de changer son prix en Ether. C'est très difficile. Mais pour des œuvres qui sont natives à une plateforme, qui viennent d'être créées, je trouve que c'est une initiative qui est vraiment intéressante et qui permet aussi de rendre tout simplement la collection et l'accès à l'art plus facile, et d'autant plus qu'en plus leur curation est vraiment magnifique. Donc je pense que ça devrait aussi être des initiatives qui pourraient aider aussi le grand public, mais aussi le public natif à crypto, à revenir un petit peu au NFT.
Écoute, très bien. Donc, on a quand même de l'optimisme dans tout ça. Rem, on va te laisser conclure.
C'est gentil, non, je regardais.
Je peux conclure avant.
Vas-y, bien sûr.
Alors, mais qui est vraiment pas optimiste. Hein. C'est que mais pour prendre un peu une image de, c'est pour ça qu'il faut le dire avant quand même.
C'est pour ça que je voulais pas te donner la conclusion.
Ah non, mais là tout le monde se détruit après. Pour reprendre un peu une image un peu d'astrophysique et tout, t'as le côté sur l'univers, on ne sait pas ce qu'il y a, énergie noire et matière noire. L'énergie noire qui va se passer là actuellement, c'est le prix. Tous les mecs qui ont mis des cryptos et tout, ils vont regarder et parler à leur famille et tout, et tout le monde va leur, enfin ils vont montrer à tout le monde, ben regarde, j'ai make it, ou en tout cas j'ai fait une plus-value, j'ai fait un foie et tout machin. Donc ça va attirer l'attention. Donc le côté extension de l'univers des cryptos va marcher et va aussi s'appliquer sur le système ou la galaxie NFT. Il n'y a pas de souci. L'énergie noire du prix va être là. Par contre, il y a un truc que je vois encore plus maintenant et qui est là mon domaine, c'est le hack. Le hack revient en force et de manière mais indécente sur les meme coins et tout. Il y en a qui pumpent, mais par exemple, tu as des meme coins qui sont codés exprès pour que tu ne puisses jamais les revendre. Ça s'appelle des zones épotes et tout. Enfin, j'ai minimum par soir, enfin par nuit le matin quand je me réveille, deux demandes de DM, parce que mes DM ne sont pas ouverts d'office, de personnes qui se sont fait hacker, qui me demandent de l'aide, qui disent je suis perdu et tout machin. Ça devient de plus en plus problématique.
Ouais, ça m'est arrivé cette semaine, je n'ai pas regardé le contract adresse comme un couillon, alors que je le fais tout le temps. Et j'ai pris un truc que je ne peux pas revendre.
C'était et ouais, et le honeypot sur les meme coins arrive, ça va arriver aussi sur des NFT, sur plusieurs trucs qui pourraient être marrants, enfin marrants pour moi en termes de hacking. Et donc ça arrive de plus en plus, le hacking, et les gens ne voient pas. Et surtout après, quand je parle aux gens, parce qu'il faut quand même dans le magazine ce hacking et tout, il y en a certains qui disent bah, je suis venu sur les cryptos, je pensais faire un petit truc machin et tout. Bon, ça se comprend, on n'a pas de gain et tout, surtout parce que bah, les gens qui ont été dans les cryptos avant ont dit bah, tiens, j'ai réussi à le faire, et donc ils ont voulu faire pareil, mais après ils sont dégoûtés, ils veulent repartir. Ils vont pas rester. Et donc, la masse noire qui pourrait recontracter l'univers des cryptos et aussi écraser la galaxie NFT, elle est présente et je la trouve assez forte déjà maintenant là. Et moi, elle me fait plutôt peur. C'était ma vision un peu obscure, mais le nombre de personnes qui viennent dessus, et si un Jérémy se fait choper comme ça et qui lui a la connaissance, imaginez un autre qui arrive directement. Combien de fois il va
se faire démolir ? Non, mais là, en effet, en fait, et je pense que pour aller dans le sens, et je pense que c'est aussi le point de. Enfin, Rémy fait souvent ce constat. On a parlé pendant tout le bear market de démocratisation, de facilitation, de user experience, de toutes les barrières qu'on devait enlever pour permettre de démocratiser ce marché. Et en fait, au lieu de débroussailler la jungle, la jungle, en fait, c'est la jungle en x10 aujourd'hui. C'est genre, tu utilises je ne sais plus combien de wallets. En termes de sécurité, c'est un challenge qui est encore plus important. Enfin, le fait d'avoir multiplier les plateformes, les wallets, multiplier les des pratiques de shitcoin où tu balances des ETH sans trop savoir où. Enfin là on se balade tous avec un gun, quoi. Et c'est et tu peux te faire shooter à la moindre seconde, alors que déjà il y a 2-3 ans, quand tu étais avec ton ledger sur Ethereum, déjà c'était, on trouvait que ça fallait que ça s'améliore. Et là, ça a complètement empiré, quoi. Donc c'est vrai que c'est problématique, et c'est pour ça que, comme je disais, il n'y a pas un onboarding, on ne facilite pas l'onboarding des wallets. Peut-être des fonds via les banques avec les ETF, mais je ne vois pas d'autre chose pour l'instant. Quoi. Mais Rem, vas-y.
Yes, non, mais je vous ai trouvé très, très, très pessimiste. Et bizarrement, j'ai envie de donner une lueur d'espoir, malgré tout. Moi, je crois qu'il y a sujet quand même à avoir espoir par des. Je pense en fait notamment à tout ce qui est reward asset tokenisation, ce genre de choses, où finalement les NFT, la blockchain, ça va venir comme un outil pour appuyer ces projets. Et je pense que Ethereum, finalement, de par son historique, son expérience, de par tout ce qui a été développé autour de cette blockchain, ça reste pour moi en tout cas la blockchain la plus apte à soutenir ce type de projet. Et ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que si aujourd'hui je dois conseiller un client à se lancer dans un projet NFT, pareil, je lui dirais, lance-le sur, malgré tout la hype qu'il y a sur d'autres blockchains, lance-le sur Ethereum. Voilà.
C'est beau, Rem. C'est beau, Rem. Voilà, tu vois, il faut y croire.
Tu devrais faire une chanson, carrément.
Il Il faut y croire à Ethereum. Parce qu'un jour,
on n'a plus le droit.
Tu dis que tu pourrais avoir un grand
payer du gaz, c'est n'importe quoi. Bon, et ben voilà, on va faire
un jour ou l'autre, vous nous direz merci d'y avoir cru jusqu'au bout. C'était le 6. Vous venez d'écouter le 680e épisode du NFT Morning, sûrement le dernier avant 6 mois. On se retrouve dans 6 mois ou dans 25 ans. 25 ans, pourquoi 25 ans? Puisque ce sera le jour où sortira de prison Sam Bankman-Fried, puisqu'on a appris aujourd'hui qu'il avait été condamné à 25 ans de prison pour ce qu'on appelle désormais la plus grande escroquerie de la décennie.
C'est magnifique quand même. Et pour donner une note positive quand même pour tout le monde, la photographie d'aujourd'hui n'est sûrement pas celle qu'on aura dans 6 mois. Et en fait, peut-être que dans 6 mois, on sera en train de s'exciter comme des petits fous sur tout ce qui se passe sur Ethereum. Et en fait, c'est quand même ça aussi, hein, enfin, d'un point de vue purement investisseur, il faut toujours être un petit peu là où la hype n'est pas. Et donc, en effet, il y a un narratif. Mais en effet, il y a aussi un marché de convictions. Et donc, je pense que si vous avez des convictions sur d'autres choses, voilà, même sur Ethereum, il va se passer des choses, j'en suis persuadé. Et tout peut se retourner très vite d'un sens à l'autre. Donc, moi, j'ai pas mal d'optimistes là-dessus. Et donc, Rem, on se retrouve lundi.
Lundi 1er octobre.
Lundi. Ça y est, on l'a complètement perdu.
Non, mais en fait, juste un truc, c'est que moi, c'est qu'il y a souvent quand j'ai des NFT, c'est vraiment la conclusion de conclusion. Je me dis, je vais pas faire de fric là-dessus, mais peut-être que mes enfants, un jour, ils vont redécouvrir Swallet et ils vont dire, putain, ah ouais, ça vaut ça quand même. Tu vois, genre, en fait, voilà, j'achète pour les générations futures.
Bah, c'est. Mais moi, alors, écoute.
Peut-être qu'ils se diront aussi à papa, il claquait son fric dans n'importe quoi.
Ouais, mais genre, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et là, je dirais, non, mais c'est, ça, c'était un airdrop.
Écoute, moi, je suis.
C'était un cadeau d'invité.
Non, mais tu sais quoi, moi, sur le très très long terme, je suis très très confiant. Parce que je pense qu'en effet, voilà. Sur le très très long terme, je crois à tout. Je crois même à certains assets qui valent. Et mince, pardon, ça me coupe toujours. Mais je crois même à tous les assets qui valent zéro aujourd'hui. Et je pense que dans 10 ans, 20 ans, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer dans le marché de la collection. Et donc, sur du très, très long terme, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne peut pas anticiper parce que la réalité de demain, finalement, n'est pas anticipable. Donc,
mais imagine, John, imagine si demain.
Ça y est, Rem, tu vois. On voulait conclure.
Le fondateur des Chubbies. Imagine si le fondateur des Chubbies, ils disent, on lance le Chubichu, le token Chubichu. Mais le... C'est-à-dire que mon Chubbies de merde, il va.
C'est la collection phare de Rem, pour ceux qui ne connaissent pas les Chubbies. C'est, la colle...
c'est mon seul NFT,
mais
en fait.
Tu ne sortirais pas, toi, carrément le Chubichu?
Écoute, déjà, j'essaye de sortir le schmock, j'ai du mal, donc...
C'est pas possible. Bon, ça y est, Rem, je pense qu'il est temps de rendre l'antenne.
Ouais, je pense qu'il
est temps de rendre l'antenne. Ça y est, ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble.
Ouais.
C'est un beau débat, c'est une belle discussion. Et en effet, à chaque fois qu'Arke vient, on annonce la mort des NFT.
Moi, vous m'avez perdu là sur les bridges, les layers et tout, mais bon, ça, c'est pas.
J'espère qu'un jour je viendrai quand ça sera un beau moment de réunification collective. Ouais.
Contacte-nous un jour où ça se passe bien et tu me dis j'aimerais bien venir au morning, les gars.
Ouais, tu nous contactes avant, comme ça, même si c'est le ciel est radieux dans l'univers crypto, à ce moment-là, je vends tout parce que je sais qu'après ton passage. Ça ne vaudra plus rien.
De mémoire, la meilleure combo, c'est Arke et Konohime en même temps.
Arke et Konohime. Ouais, mais je crois qu'il était là en plus, Kono.
Bah, il t'a demandé la parole, tu l'as.
Non, c'est pas vrai.
Là, t'es maudit.
Ah putain, j'étais parce que d'habitude, John est aussi co-hôte. Bon, désolé. franchement, toutes mes excuses.
Parce que d'habitude, c'est moi. D'habitude, Rem, vous avez compris, Crème, il se met. Hein. En fait, il se met la berceuse pendant une heure. Tu vois, il écoute vaguement d'une oreille ce qui se passe. Puis à la fin, il est content. Et là, il commence à faire sa room, tu vois. Donc, c'est là.
D'ailleurs, j'ai écouté un super podcast pendant que vous parliez. Non, mais c'est vrai. C'est un podcast qui s'appelle Le Terroriste. C'est sur. Bon, bref. Je vous invite à l'écouter.
Tant que c'est pas lié à moi, ça me va. C'est ce que t'as dit en micro.
Bon, bah, très bien, Rem. Bah écoute, tu pourras réécouter la room pour comprendre les brides sur Optimism. Et non, mais pour de vrai, il faut qu'on lâche l'antenne là, parce qu'on est bien ensemble, c'est vrai. Mais ça fait une heure et demie là, c'est beaucoup trop long. C'est un format qui est inaudible pour nos auditeurs du podcast.
Exactement. Ouais.
Donc, on va simplement rendre l'antenne.
Et on se retrouve lundi. Lundi de Pâques. Voilà, exactement.
Lundi de Pâques, on est là, on fait les news de la semaine le lundi de Pâques. Et on sera avec Léo, c'est ça, Rem?
Ouais, avec Léo, voilà, c'est confirmé, c'est bon, il sera là.
Bah, très bien. Et bon, on se retrouve merci lundi, en tout cas. Merci beaucoup, Jérémy, Frédéric, Arquet.
Kono.
Et Kono, et tous les gens qui ont mis des commentaires. En fait, on n'a même pas lu, il y a plein de commentaires, Rem, putain, on n'a pas vu.
Ouais.
Bon, je suis désolé, on les fera plus tard, mais là, il faut vraiment rendre l'antenne. Et passez une excellente journée, et good morning.